question transculturelle, elle n'appartient pas qu'aux marges. Elle appartient à l'ensemble de ceux qui s'occupent des migrants, de tous les enfants, en fait, parce que la question de changer de famille, changer de langue, changer de pays, vivre dans une multiplicité de langues ou de références, c'est une question, je pense, profondément contemporaine et qui vaut pour des tas de situations, les métissages, l'adoption et des tas d'autres situations d'expatriation ou de passage de famille à l'autre. Donc effectivement, je vais vous proposer quelques réflexions d'abord épistémologiques, cliniques, et puis une situation clinique que j'analyserai avec vous. Avec comme titre « Quand l'adolescence questionne la culture de soi et celle des autres ». Parce que évidemment, la question identitaire à l'adolescence et la porosité des adolescents à toutes les questions des appartenances, de la manière dont je me construis, les liens que j'invente, toutes ces questions-là font que l'adolescent est particulièrement poreux, particulièrement pris dans les questions de culture, culture pour soi, bien sûr, quelles sont mes appartenances, mais aussi pour les autres, avec ce travail de séparation et d'individuation. Donc, après avoir... je ne reviendrai pas, d'ailleurs, sur un certain nombre de points qui ont déjà été brillamment développés par François Marty ou par Alain Braconnier, mais je reprendrai là la question des adolescents en insistant tout particulièrement sur les liens avec la question culturelle, la leur, celle de leurs parents, celle de leur groupe, et pour montrer peut-être que ces questions culturelles sont des questions qui potentialisent toutes les questions identitaires des adolescents. C'est-à-dire qu'elles ne se posent pas seulement pour ceux qui, de manière explicite, doivent faire ce travail, comme les enfants de migrants, mais qu'elles se posent, au fond, pour plein d'enfants différents et pour tous les adolescents qui doivent se positionner par rapport à ces éléments-là. Alors, peut-être quelques petites remarques épistémologiques pour commencer, pour même si je vais aller vite, mais... dire de quelle position je parle, d'une position qu'on appelle en général complémentariste, c'est-à-dire qui intègre la psychanalyse et l'anthropologie. Alors, j'aurais pu prendre aussi d'autres positions complémentaristes, comme, on le verra d'ailleurs un peu chemin faisant, la psychanalyse et l'histoire, hein, parce que l'histoire aussi, la transmission, la grande histoire, les effets de la grande histoire dans l'histoire intime, ça aussi s'étudie dans le champ transculturel. Bon, j'ai pas mis l'accent là-dessus ce soir, mais on peut aussi, disons, faire dialoguer la psychanalyse avec l'histoire ou avec la linguistique, par exemple, pour toutes les... C'est très important pour les petits et la manière dont on passe de la langue maternelle à la langue seconde. Mais pour les adolescents, ça reste vivace, hein, parce que la langue maternelle reste porteuse d'éléments très, très importants. Mais bon, comme il faut restreindre le champ, je partirai d'une position donc psychanalyse et anthropologie. Et d'ailleurs, dans la situation clinique que j'ai choisie, j'essaierai de montrer comment on ne peut pas se passer de ce lien-là. Alors, l'autre remarque épistémologique introductive, c'est de dire l'importance, et encore à l'adolescence, donc hein, pas seulement chez les bébés, de la question de la structuration culturelle, c'est-à-dire de la manière dont la culture... Alors, la culture, entendons-nous bien, comme un espace dynamique, comme un espace... La culture, finalement... bien sûr, on peut aller du côté de l'anthropologie, il faut aller du côté de l'anthropologie pour préciser des logiques culturelles, mais pour nous, les cliniciens, je dirais que pour penser les questions culturelles, on a besoin, par exemple, de prendre souvent, d'utiliser des références comme celle de Winnicott, c'est-à-dire la culture au sens des éléments qui font nos appartenances, mais aussi la langue, les manières de faire, l'histoire, mais aussi un espace transitionnel, dynamique, transmis, qui se... Donc, il ne s'agit pas d'éléments statiques, souvent, lorsqu'on regarde la culture de trop loin, on a l'impression que la culture de l'autre, je parle bien, elle enferme, et puis que la nôtre, je ne sais pas, elle serait transparente. Non, la culture, comme tous les systèmes de contenance, comme tous les systèmes d'appartenance, ils ont à la fois des effets évidemment structurants et donc contraignants, parfois, mais ils ont aussi des effets créatifs, ils ont des effets qui permettent d'exprimer des éléments créatifs, d'exprimer des engagements, etc. Donc, lorsqu'on va parler ce soir de culture, on va parler de cet espace donc ouvert que l'on appelle la culture, qui est un espace donc complexe, transmis mais qui se réactualise, et avec deux niveaux pour cet espace culturel pour les adolescents. Il y a d'abord celui qui appartient d'abord à leurs parents, qui est d'où viennent les parents, qu'est-ce qu'ils ont amené avec eux, quels sont les éléments dans cet héritage culturel que les parents vont transmettre. Et bien sûr, la culture, il s'agit pour nous, les cliniciens, de culture intime, c'est-à-dire qu'on s'approprie des éléments de la culture collective et on les repasse par sa structuration familiale et par sa structuration individuelle. Et dans la culture, il y a des éléments comme la religion, comme l'histoire du groupe auquel j'appartiens, mais ni l'un ni l'autre, ni la langue maternelle, ni la religion, ni l'histoire ne résument la culture. C'est la culture, c'est tous ces éléments-là et les interactions entre ça. Hein. Lorsqu'on réduit par exemple la culture de l'autre à son appartenance religieuse, on l'enferme, mais parce qu'on a fait un travail de simplification. Donc, pour les adolescents, dans les aspects culturels, il va y avoir cette notion donc, d'histoire plus que d'origine. Hein, parce que si on dit un adolescent originaire, Larry du Congo, par exemple, c'est de là d'où viennent les parents de la jeune fille dont je vais vous parler, c'est une métaphore botanique, les origines, hein. Ce n'est pas suffisant, en tout cas ça ne rend pas bien compte du fait que pour un adolescent qui est né ici, ce qui est d'abord important dans ces questions de d'où viennent mes parents, c'est l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avant la migration, les générations avant, toute l'histoire antérieure à ce temps zéro de la migration. Donc, dans l'espace culturel, il y a ça, il y a cet aspect historique. Et puis, il y a la migration des parents. La migration des parents et les effets donc ensuite qui seront transmis aux enfants, mais la migration comme un événement sociologique, comme un événement politique, mais surtout comme un événement profondément individuel. Et les effets traumatiques de la migration, on y a parfois insisté, certains courants ont insisté sur l'importance des effets traumatiques de la migration. C'est vrai que changer de langue, changer de monde, changer de référence, et il peut y avoir une dose de trauma, mais au sens psychanalytique du terme, c'est-à-dire au sens de réorganisation très importante. Alors parfois ça fait mal, c'est violent, et là on peut parler d'effets traumatiques, et ça se transmet comme ça aux enfants, mais parfois aussi c'est des changements structurants pour les familles, c'est des nouvelles modalités d'être, c'est de nouveau possible. Donc la migration dans ses différentes valences. Et puis il y a encore un ingrédient duquel il faut tenir compte dans la question culturelle pour les adolescents et qui vont prendre une place dans les psychothérapies, mais à condition qu'on leur laisse une place, hein, ça c'est une des choses sur lesquelles je vais discuter tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où un adolescent se trouve par l'histoire de ses parents et donc aussi par la sienne, par ce qu'il représente, par sa couleur de peau, par sa langue maternelle, etc., il se trouve donc dans une position de minorité ici, il va se trouver dans une position dite transculturelle lorsqu'on n'insiste pas sur les aspects politiques, mais lorsqu'on veut aussi dire la complexité de la situation transculturelle, il faut dire qu'il est en position minoritaire, avec ce que ça signifie de discrimination et d'effet sur l'estime de soi, la représentation de soi, la représentation de l'autre, et éléments qui, on s'en doute, sont extrêmement importants à l'adolescence. Donc finalement, lorsqu'on parle de la question culturelle, pour dire comme ça de manière générale, pour les adolescents, vous voyez qu'on parle déjà de trois niveaux. L'historicité, la migration et ses effets, et puis des vécus discriminants liés à la position minoritaire de ces familles et de leurs adolescents. Et ces éléments-là, dont je remarquais en réfléchissant à cet exposé de ce soir, je ressortais à certains travaux, en particulier des travaux canadiens, des travaux anglo-saxons sur les adolescents, et eux, par exemple, sur ces trois ingrédients-là, nous, en France, dans l'école transculturelle française, on insiste beaucoup sur la question de l'historicité, du transgénérationnel, des éléments qui sont transmis, et on insiste parfois aussi sur les effets de la migration sur la transmission ensuite et sur la manière dont on va se représenter les enfants dans cette situation. Et on insiste beaucoup moins sur ce troisième ingrédient qui est sur lequel les anglo-saxons, eux, insistent énormément, c'est-à-dire sur... Et moi, je pense qu'à l'adolescence, on ne peut pas ne pas tenir compte de ça, sur les effets de la discrimination et les effets de la confrontation, pas toujours à petite dose, entre les appartenances et entre les manières de penser, de faire de l'adolescent et de sa famille et du monde extérieur.